Cet épisode est en partenariat avec Riverside, l'outil parfait pour enregistrer des interviews à distance avec un ou plusieurs invités ou co-animateurs. C'est d'ailleurs ce qu'on fait dans ce podcast quand on ne peut pas se retrouver physiquement dans un même endroit. J'envoie un lien à l'équipe et c'est parti. L'avantage de passer par Riverside, c'est que toutes les sources sont enregistrées séparément. Dans l'exemple d'une interview, lorsque votre échange sera terminé, vous pourrez récupérer les fichiers audio et vidéo de chacun des participants afin de faire le montage de façon professionnelle. L'enregistrement se fait localement, puis se charge ensuite sur le cloud pour que vous puissiez le récupérer en quelques minutes. Alors, je parle bien sûr en tant que monteur, mais si vous ne comptez pas utiliser de logiciels de montage spécifiques, ne vous inquiétez pas, Riverside a de nombreuses fonctionnalités qui peuvent vous aider. Et accrochez-vous, la liste est longue. Il y a une interface d'édition intégrée à Riverside. On peut voir le transcript automatique de son épisode. On peut choisir le format de l'épisode, horizontal, carré ou vertical. On peut générer automatiquement des contenus courts pour les réseaux sociaux avec des sous-titres, générer une description automatique pour son épisode de podcast et générer des chapitres automatiques. Et Riverside ajoute encore de nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité de couper les silences afin de dynamiser votre discussion. On peut ajouter des textes en overlay sur la vidéo et un outil de montage pour déplacer vos chapitres, ajouter votre logo, intégrer des vidéos, etc. Bref, vous voyez tout le potentiel de Riverside et je suis sûr d'avoir oublié certaines fonctionnalités. Si vous voulez essayer Riverside, je vous laisse un lien en description. Vous pouvez même bénéficier de 15% de réduction sur les abonnements avec le code dans la poche. Ça permet de soutenir le podcast et ça vous fait faire une belle économie. Merci à vous et merci à Riverside pour leur confiance.
Mais justement, là, l'IA, ça serait dingue. Tu peux entendre comment Mr. Beast sonnerait s'il parlait français ou chinois ou whatever.
Tu vois, c'est un usage. Il y a une personne qui a perdu son emploi là.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans la Poche, de nouveau dans ce studio chez 760 Média, qu'on remercie encore une fois parce qu'ils nous laissent utiliser ce studio incroyable. Si vous êtes sur YouTube et que vous nous regardez, eh bien ça ressemble à ça, un studio de podcast professionnel avec des caméras, avec des micros, le tout préinstallé, vous avez juste à arriver, mettre votre SSD, votre carte SD, enregistrer et c'est plié. Ça rime.
Presque. C'est bon. Il n'y a même pas besoin de faire l'épisode.
Il faut parler dans le micro quand même. Bon, on est toujours avec Julien et Abdel.
Et Thomas est encore malade.
Et Thomas est encore malade, décidément. Mais qu'est-ce qui se passe?
C'est pas vrai. Hein. Et on a habillé pareil
c'est
que la
fait des semaines. C'est l'hiver québécois. Ouais.
Exactement. Ouais. Bon, les gars, je voulais qu'on revienne sur un sujet très, très chaud dans l'actu. C'est l'actu longue durée, parce que ça fait un peu plus d'un an qu'on a commencé à parler d'intelligence artificielle. L'expression préférée d'Abdel.
Ben oui, bien sûr.
Il est sorti quand, ChatGPT?
C'était novembre 2022, la version publique.
Un peu plus d'un an, quand même. Ouais, et c'est vrai que c'est un sujet qu'on revoit dans l'actualité. Enfin, très régulièrement, il y a des articles, il y a des nouveaux logiciels, des nouveaux outils, des nouveaux sites, des nouveaux services. Abdel, qu'est-ce qui se passe?
Non, mais les mamies en parlent. Tout le monde en parle en ce moment.
Les mamies en parlent.
Mais tout le monde en
parle. Est-ce que c'est un peu comme dans le bullrun, quand tout le monde en parle, il faut commencer à s'inquiéter?
Ah non, mais le chat GPT, le chat qui a... ça, on entend parler partout. Franchement, mais oui, bien sûr. Franchement, mais les journalistes surtout. Tout le monde en parle. Quand les journalistes généralistes commencent à en parler, c'est que le truc, c'est quand même démocratisé. Et franchement, s'il y a un truc qu'on peut dire sur OpenAI, c'est qu'ils ont démocratisé un peu ce qu'on appelle aujourd'hui l'IA générative. Donc ça, c'est quand même incroyable.
Mais moi, ce qui me fait chier, c'est que j'ai l'impression que l'adoption est plus rapide que de la crypto. Alors que la crypto, ça fait plus de 10 ans que c'est là. Et je vois encore les gens qui ne comprennent pas des concepts de base. Et l'IA, on dirait que tout le monde pas comprend tous les enjeux.
Mais il y a
tout,
des usages,
mais
peut-être.
Il y a des usages, ouais, je pense que c'est ça. Il y a des usages dans la poche directement.
C'est toute la différence, bien joué. C'est toute la différence. C'est les usages que tu as immédiatement sur ton ordinateur, devant toi, facilement. Tu te connectes avec ton compte Google, tu peux déjà faire plein de trucs.
Est-ce que ça vaut la peine de redéfinir c'est quoi l'IA? Parce que pour moi, l'IA...
Alors, ce que tu appelles l'IA générative, tu utilises souvent cette expression. Qu'est-ce que c'est de l'IA, encore une fois, entre guillemets, générative?
Vous savez que j'aime pas beaucoup ce terme-là parce que les deux mots-là, intelligence et artificielle, j'ai beaucoup de mal avec ces mots-là, mais... Regarde, tout le monde l'utilise aujourd'hui. Je pense que je vais passer pour le vieux con.
C'est correct. Définissons-le.
J'essaye de définir.
On le sait déjà. C'est quoi?
Un vieux con, c'est quoi?
En fait, l'IA, c'est un terme marketing. Okay. Ça, on ne va pas se mentir. C'est un terme qui est 100% marketing, mais qui représente des vraies techniques en dessous. Tu sais, quand on parle de machine learning, apprentissage machine et tout ça, là, le deep learning. Puis ça, c'est les vraies techniques d'intelligence artificielle ou peu importe là. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de choses qui sont plus de l'automation ou du raisonnement logique, et on attribue ça à l'IA. Je donne un exemple très simple. DJI a sorti un micro, un nouveau micro, le DJI Mic 2. il y a peut-être 2-3 semaines, il y a pas longtemps. Et ils ont mis dans leur publicité Intelligent Noise Cancelling. Donc, réduction de bruit intelligente. On est d'accord que le casque que tu as, les Bose qu'on a tous les deux, ça fait plusieurs années qu'il existe, puis il fait cette façon, cette réduction de bruit.
Ouais.
Là, ils ont rajouté le mot intelligent. Ils ont fait attention au vocabulaire qu'ils utilisaient, ils ont utilisé le mot intelligent, pas intelligence artificielle. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde s'est emparé de ce terme-là, et toutes les vidéos YouTube qui parlaient de DJI Mic, de tout le monde utilisait, il y a une IA maintenant qui nous permet de faire ça. Bon, vous savez, ça m'a énervé parce que j'ai essayé d'avoir la discussion avec certaines personnes, mais j'ai vu que c'était vraiment perdu, ça servait à rien. Et puis la question, c'était le micro, il n'est même pas connecté à Internet. Genre, comment tu veux qu'il apprenne? Oui, il y a quelque chose qui a été codé dans le firmware de ce micro-là pour dire si je détecte que c'est au-dessus d'un certain niveau ou en dessous d'un certain niveau, bah, je vais faire une petite balance. Mais encore une fois, c'est du raisonnement logique. Tu sais, c'est le bon vieux code if else, if then, then that. Donc, c'est vraiment des trucs très simples.
C'est plus automatic noise cancelling que intelligent. Alors,
exact, c'est ça. Et puis les gens sont emparés de ce terme-là. Tout ça pour dire que je pense qu'on a perdu la main sur ce terme-là. Le définir, ce serait vraiment beaucoup plus difficile. Et moi, quand je parle de technique d'IA, je nomme les techniques, je n'utilise pas le mot IA. L'intelligence artificielle, genre l'IA générative, c'est un terme qui a quoi? Qui a à peu près un an, qui est arrivé avec les Midjourney, avec les DALL-E, avec justement OpenAI, où est-ce qu'on pouvait générer des images, on pouvait générer des sons, on pouvait faire des choses comme ça.
Mais on est d'accord que l'IA ne va jamais créer quelque chose de zéro. En fait, on l'a traîné, il a vu, il a accès à une pool d'images, par exemple, c'est une image.
Du data.
Du data. Et lui, après, il va juste faire des mises en lien. Quoi. Il dit, OK, si ça, je fais ça, comme tu dis.
Et c'est ça qui coûte cher,
Ça, l'IA.
Exact. Et c'est ça qui coûte cher aujourd'hui. Parce qu'entraîner ces IA-là, je pense qu'il y a un chiffre qui était sorti l'année dernière. OpenAI, je pense que ça leur a coûté 60 millions de dollars d'entraîner, je pense, c'est le ChatGPT, soit 4 ou 3.5.
Ouais.
Je ne me rappelle plus lequel des deux. 60 millions. Là, quand on regarde le Llama ou par exemple Gemini de Google, ça coûte encore beaucoup plus cher. Parce qu'on les entraîne sur des sets de data qui sont incroyables. Donc, ça demande la puissance de calcul, ça demande du processing. Donc,
Déjà, si tu parles de data, moi, j'associe Google à on a toutes les datas du monde. Donc, on peut imaginer qu'ils ont un avantage là-dessus.
Bah, l'année dernière, quand on a fait notre épisode, on avait dit « Eh les gars, qu'est-ce qui se passe avec Google ?» Parce qu'on voit plein de petites boîtes qui sortent des trucs, mais eux, ils font rien. Vous vous rappelez de cette discussion? Et moi, je vous ai dit « Les gars, ils sont juste en sous-marin, ils sont en train de travailler sur quelque chose. » Puis à un moment donné, c'est pas vrai que la première puissance mondiale en termes de data va pas nous sortir quelque chose. Et là, 2024, un peu avant, ils ont accouché d'une série
une suite logicielle.
Exact, le Gemini maintenant qui est dans les Android, dans les Pixel 7. C'est
8, non?
Donc, en tout cas, le dernier modèle de Pixel, je suis désolé parce que ça fait longtemps que je n'ai pas suivi ça. Là.
Ouais.
Il y a la version Nano qui roule localement sur le téléphone. Il y a en sorti une version Pro. Puis là, ils nous ont promis une version Ultra qui va sortir ce printemps et qui est supposée égaler, voire dépasser un peu ce que fait GPT 4 Turbo. Donc voilà, c'est sûr que... Donc, tout ça pour revenir à un point, ça s'est tellement démocratisé, le mot intelligence artificielle est dans la bouche de tout le monde, que des fois...
C'est un peu too much. Ouais.
Ah non, c'est vraiment too much, mais il y a vraiment des trucs cool qui sont sortis. Il y a vraiment des trucs intéressants, pas forcément de l'IA, et des trucs qui sont IA, et je pense qu'il faut juste faire la distinction entre les deux. Là, je ne sais pas ce que vous avez utilisé, vous, comme logiciel ou comme outil
Moi, je ne sais pas si ça rentre dans la catégorie IA, mais en tout cas, ça est un peu marketé comme ça. C'est les outils où tu vas mettre, par exemple, tu vas uploader une vidéo ou tu vas mettre un lien YouTube et ça va te repérer les moments les plus pertinents d'un point de vue social media. Donc, ça va t'extraire un clip de 30 secondes, par exemple, ou 45 secondes. Et ça va ensuite te générer les sous-titres automatiques, de te faire une petite animation avec les emojis qui vont bien. Ça va pouvoir, selon les mots-clés que tu dis, aller chercher dans une bibliothèque de B-roll des images d'illustration, ce genre de choses. Est-ce que ça, c'est de l'IA, encore une fois, ou est-ce que c'est un autre truc
C'est possible que la première étape d'analyse et de qui va prendre la vidéo, qui va traiter la vidéo, c'est peut-être de l'IA. Après...
Ce qui me donne un score, en fait. Ça me donne un score de... ça, c'est pertinent, ça, c'est un peu moins pertinent, etc. Donc, je ne sais pas d'où ça sort, ce chiffre.
Alors, regarde, je sais pas c'est quoi cet outil-là ou je n'ai pas personnellement utilisé ça, mais j'imagine que ça a une certaine faculté de découper en fait la vidéo en plusieurs morceaux, comprendre que là il y a un arrêt, c'est une fin de sujet, et vérifier avec l'actualité et voir est-ce que ça c'est quelque chose de pertinent, est-ce que c'est pas pertinent, est-ce que la phrase est correctement. Il peut y avoir du machine learning là-dedans, là. C'est possible. Moi personnellement, je vais pas utiliser ça, mais.
Mais dans le côté, là, tu parlais les sous-titres, donc la reconnaissance. Moi, j'utilise, tu sais, ChatGPT, l'application sur le téléphone, et j'utilise toujours les mêmes mots. Il comprend, mais tous les mots. En fait, il va écrire en texte quand même ce que je dis, mais il n'y a aucune faute. Et maintenant, je l'utilise beaucoup pour passer à l'anglais, par exemple. Si je fais des emails formels, des trucs comme ça, avant, d'utiliser Antidote ou des conneries comme ça, ou old school, parce que Google je faisais Trad. Ça, j'allais sur Google Trad, ou même, tu sais, Lingui machin, et je regardais des exemples d'images, je voyais si c'était cohérent et tout. Mais maintenant, la traduction est d'une précision, je ne vérifie même plus. C'est assez impressionnant. Est-ce que ça, c'est l'IA qui... Parce que les enjeux sont dingues, là. Ça veut dire qu'on peut... On peut couper la barrière de la langue et tout le monde va pouvoir communiquer les uns avec les autres.
Oui, oui, il y a des techniques de machine learning là-dessus parce qu'en fait, ça apprend un peu les subtilités des langages et des langues et être capable de comprendre que c'est dans un contexte quelconque, c'est pas juste une phrase. Parce que la traduction, Google Translate, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait un mot, il cherchait dans le dictionnaire l'équivalent, il le mettait là.
C'était un pour un, quoi.
Puis le petit bout d'intelligence qu'il y avait, c'est qu'il était capable de refaire une phrase correctement avec. Des fois, tu écrivais une phrase, tu ne mettais pas le point de la fin de la phrase. Tu avais une traduction différente, tu enlèves le point, tu rajoutes une virgule, puis c'est complètement changé. Je pense que maintenant, il y a une certaine une intelligence qui a été ajoutée à ce genre de choses-là. Donc oui, je pense qu'il doit y avoir du machine learning là-dedans. Pour les langues, là, je trouve que c'est quand même assez incroyable. Moi, ce que je trouve impressionnant, c'était Eleven Labs. C'est une des compagnies qui font... parce que je me rappelle, il y a 2 ans, au CES, justement, il y avait une boîte française qui avait sorti un logiciel qui permettait, à partir d'un échantillon de ta voix, être capable de générer en fait un set de voix, de mots que tu pouvais utiliser pour les personnes qui étaient, par exemple, qui n'avaient plus la faculté de parler. Ça, c'était c'était vraiment CES 2023. Un an après, on a des compagnies comme Eleven Labs qui ont sorti des trucs incroyables.
Alors, ils proposent quoi, Eleven Labs? Ils proposent quoi, Eleven Labs?
Alors, tu leur donnes un échantillon, je pense, entre une minute, à partir d'une minute jusqu'à 5 minutes de ta voix normale. Et ils sont capables de te générer, en fait, ta voix et tu peux en faire ce que tu veux après.
Incroyable.
C'est-à-dire que tu peux, après, faire des discours, tu peux faire des... Si vous vous rappelez, il y a une personne qui avait fait une vidéo sur Emmanuel Macron, en fait, qui chantait une chanson d'Aznavour. Et à l'époque, c'était impressionnant, mais c'était il y a 6 mois. J'ai l'impression qu'on parle de quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans, tu vois. Il y a une révolution, il y a une évolution, je vais dire, qui s'est passée dans les 12 derniers mois. C'est incroyable. Il y avait des boîtes qui valaient des milliards au mois de mars dernier, et puis aujourd'hui, ils ne valent plus rien parce que c'est devenu commodité. Exact. C'est ça qui est incroyable.
Mais j'ai vu un YouTuber qui... alors, il prenait des photos de lui et tout, et il se crée, je ne sais pas si on appelle ça un avatar, tu vois. Donc, c'était en mode toute l'IA. Et après, il y avait un truc de sa voix. Donc, il faisait juste taper des scripts ou il les faisait générer aussi là, par ChatGPT ou whatever. Et après, il disait, ma vidéo, je veux qu'elle soit comme ça. Le background, je veux que ce soit ça. La lumière, je veux que ce soit ça. Et tu avais l'impression que c'est comme nous en ce moment, vous nous voyez. Mais en fait, ce n'est pas nous, c'est de l'IA. Genre, on n'a jamais été là.
Mais vous avez vu aussi
les chaînes de news?
Ouais, mais avant la chaîne de news, toi, tu avais testé HeyGen.
Oui, ouais. Donc en fait, moi, j'avais mis sur HeyGen une portion de vidéo que j'avais sortie sur YouTube il y a quelque temps, où je parlais évidemment en français, je présentais Notion à l'époque, et je lui ai dit, OK, traduis cette vidéo en espagnol. Alors ça m'a en effet traduit la vidéo en espagnol, c'est-à-dire que ça reprend ma voix, ça clone ma voix en espagnol. Mais en plus, il y a le lip-sync. Ça correspond, les mouvements de mes lèvres, de ma bouche, correspondent avec les mots que je dis en espagnol. Et ça, je trouve ça fou. Je l'avais mis sur Twitter aussi.
C'est incroyable. Et en plus, c'est live et tu peux switcher de l'espagnol.
C'est pas live. Je upload la vidéo, ça fait un traitement pendant quelques jours et ça revient.
Mais c'est fait en 2 étapes. La première étape, c'est que le logiciel ne te connaissait pas, tu as uploadé la vidéo, il a construit ta bibliothèque, et là, il a pris la même vidéo que tu as utilisée pour l'entraînement, et il l'a traduite. Une fois qu'il a appris...
Ah, ça ira plus vite après.
Maintenant, il connaît ta voix, donc il est capable de générer je ne sais pas combien de millions de mots. Et en fait, les vidéos qui étaient impressionnantes, c'est que tu avais des personnes qui parlaient en français, et ça changeait vers l'espagnol, live. Et après, ils passaient vers le cantonais, vers le portugais, vers l'arabe, vers peu importe quelle langue. Et tu voyais la bouche qui changeait, puis les mouvements qui suivaient. Et ça, je trouve ça assez incroyable.
C'est fou.
Alors, il ne faut pas que la bouche soit masquée, par exemple, par un micro et tout. Parce que si de temps en temps, ça s'est caché, ça fait des effets très, très bizarres sur la bouche. Tu as des dents fake qui apparaissent, tu as des trucs chelous. Ouais. J'ai essayé sur une autre vidéo d'une autre personne pour tester. Et il y avait un micro devant et ça ne rendait pas bien.
Imaginons l'usage de ce truc-là. Et moi, j'ai regardé Eleven Labs, ça ne coûte pas super cher. Là, on parle d'un service qui coûte, je pense que pour 100 000 mots, quelque chose comme ça, tu payes comme genre $22 par mois. Imagine les usages professionnels de ce truc-là. Donc, imaginez aussi les personnes qui vont devoir évoluer dans leur métier. Ouais. Sinon, ils vont se voir genre dépasser, voire le métier va disparaître, tu vois, le doublage.
Mais tu sais, mettons à l'ONU, par exemple, où tu as des interprètes et tout comme ça, où en plus, sur des discours politiques, le choix des mots est pertinent et très important. Est-ce que là, tu penses qu'on pourrait avoir des trucs... mettons, j'ai un écran derrière moi, je parle, mais après, ça génère automatiquement un gonze qui parle la langue que toi, tu as besoin d'écouter dans ton casque.
Bon, moi, je pense que l'exemple des Nations Unies, moi, je trouve que c'est un exemple très, très parlant. Parce qu'aujourd'hui, tu vois toutes les personnes avec une espèce de casque, là, puis quand c'est le moment de parler, et puis tu as tout le monde qui est un peu attendu, essaie de comprendre dans sa langue, les personnes qui sont derrière, les personnes, les traducteurs qui sont derrière, le travail, c'est immense. Alors, moi, ces gens-là, je leur dis bonne chance. Ça ne veut pas dire que leur métier est mort, mais je pense que ces gens-là peuvent évoluer vers autre chose et prendre ça à leur avantage. C'est beaucoup de gens qui... On a beaucoup entendu ça. L'IA va faire disparaître des métiers et tout. Non,
elle va en créer d'autres aussi.
Elle va faire évoluer des métiers. Elle va en créer d'autres, effectivement.
Donc, mais les doubleurs, comme tu disais, en France, on est très habitués au doublage. Et souvent, c'est... Très souvent, pour moi, ce n'est pas très, très bon. Là, on va pouvoir avoir potentiellement la vraie voix de l'acteur qui a joué, traduit en français, par exemple, avec les mêmes intonations, le même timbre de voix. C'est ça qui est incroyable, en vrai.
Je pense que c'est Julien qui avait parlé à un moment donné de MrBeast, qui avait plusieurs chaînes télé avec des langues différentes et tout.
Plusieurs chaînes YouTube, parce qu'il n'est pas encore à la télé, mais
oui. Ouais, non, c'est ça. chaîne YouTube, c'est drôle, parce que cette semaine, je suis tombé sur une... YouTube m'a proposé une de ses vidéos. Elle s'est lancée en français.
Ouais. Et là, par défaut.
Et là, j'avais la petite voix, tu sais, en France, quand t'avais l'émission américaine, puis t'avais une voix derrière. Je trouvais ça super drôle. Je me suis dit, attends, mais il y a les tracks dans YouTube, oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'il a d'autres chaînes en français? Est-ce qu'il a une chaîne dédiée juste en français?
Au début, il a fait ça. Il a créé une chaîne par langue. Si tu vas et tu tapes, mettons, MrBeast France ou Espagne, tu vas voir encore la chaîne, sauf que quand tu cliques dessus, automatiquement, ça te redirige sur sa unique chaîne maintenant. Parce qu'en fait, je pense que YouTube s'est dit, ça part dans tous les sens.
Ouais.
Donc, on va lui proposer, et c'est pas toutes les chaînes, à ma connaissance, c'est la seule.
C'est
donc,
vrai.
Quand non, tu vas en bas à droite, plusieurs chaînes maintenant,
tu choisis la langue dedans. Dans le.
T'as une option en plus que t'as pas dans plein de chaînes où tu peux sélectionner.
Ouais, alors, imagine dans le premier modèle où est-ce qu'il avait plusieurs chaînes. Donc là, j'imagine qu'il a, il a dû recruter une équipe qui va s'occuper de cette partie-là.
Ouais.
Ensuite, il est passé à un modèle où est-ce qu'on va tout consolider sous une seule chaîne, mais avec des tracks différentes. Donc, il a dû engager des gens qui font de la
traduction. Bah, c'est des voice artists, je crois, on appelle des gens qui sont connus pour leur voix dans le pays où ça va être diffusé.
Ouais.
Mais justement, là, l'IA, ça serait dingue. Tu peux entendre comment MrBeast sonnerait s'il parlait français ou chinois ou whatever.
Tu vois, c'est un usage. Il y a une personne qui a perdu son emploi. Là.
Plusieurs personnes.
Plusieurs personnes.
Et tu vois,
mais même le gain de temps, parce qu'avant, où là, après, ça, c'est l'option du YouTube qui fait ça, mais. Au lieu d'uploader 50 fois la même vidéo dans chacune des chaînes avec une voix différente, il upload qu'une fois sa vidéo.
Et après,
les gens choisissent la langue.
Exact. Et puis moi, je peux vous dire que dans mon travail de tous les jours, quand on fait des nouveaux releases, des nouveaux features qui sortent, j'essaye de faire un enregistrement avec une démo où est-ce que tu me vois sur l'écran faire des choses et d'écrire ce que je fais. Je le fais souvent en anglais. Après, ça part en traduction. Ça part en traduction pour des sous-titres ou des trucs comme ça. Imaginez les gars, c'est fini ça. Je fais ma vidéo en anglais, j'ai mon profil dans Eleven Labs qui a déjà appris depuis plusieurs vidéos, et là je lui fais juste uploader la vidéo et peu importe le temps qu'il va mettre, une heure après, ma vidéo est prête en portugais, en cantonais, en machin. C'est fini ça, il n'y a plus de problème de...
J'hésite à passer ma chaîne en anglais.
C'est vrai?
Avec Eleven Labs.
Ben oui.
Mais après le truc c'est que Eleven Labs, t'as... Il faut un forfait de fou là, qui va coûter quand même assez cher. Si tu veux, ça dépend combien d'heures de contenu tu crées par mois. Mais...
$22, 100 000.
Ça fait combien d'heures de vidéo?
J'ai fait le calcul, ça fait 4 heures par mois.
Ah bah ça va, je fais pas 4
heures par mois. J'ai pensé à toi avec ton forfait.
22 balles
Riverside. Riverside, tu disais que tu avais besoin.
Ils ont dit,
J'ai fait le calcul à 4, 5 heures par mois. Et puis, tu as le forfait à 300 000 mots aussi, qui coûte un peu plus cher. Mais pour 22 dollars US mm-hmm. par mois, tu as 100 000 mots, tu peux faire t'as 3-4 vidéos de 1 heure, quoi.
C'est quand même cool.
C'est quand même, ouais. Franchement, c'est incroyable. Moi, c'est un des services que...
Après, ça doit prendre un peu de temps à processer la vidéo et être envoyé le résultat final, non?
Ouais. Bah, moi, je n'ai pas testé HeyGen. Moi, j'ai testé juste ElevenLabs parce que tu as une voix et après, tu fais un prompt, mais tu fournis un texte et puis la voix va être capable de le dire. Et là, tu peux choisir des voix incroyables. Moi, je me suis amusé à aller chercher. Moi, je suis un fan de la voix de Paddington. Je ne sais pas si vous connaissez, là, genre... la voix de la BBC dans les documentaires. J'adore ce truc-là. Et je me suis amusé. Ils donnent des tokens gratuits pour tester.
Tu parles comme lui.
Ouais, exact. Et j'ai adoré le truc. Donc, je trouve ça incroyable. Après, tu n'as pas besoin forcément de cloner ta voix. Tu peux utiliser juste une voix quelconque pour faire une description sur une vidéo.
Ah, j'avoue.
Imaginez toutes les chaînes YouTube aujourd'hui qui se créent où est-ce que le contenu a été traité par une IA générative.
Ouais.
Et que la voix a été traitée par un logiciel comme ElevenLabs, avec un peu d'automation pour publier ça. Puis c'est bon, ton business, tu as une vidéo par semaine, tu choisis ton sujet. Mais c'est là où je veux revenir sur la nouveauté, en fait, ce qui s'est passé. Alors, l'année dernière, on était dans un peu comme les mégapixels. L'appareil photo qui a le plus gros nombre de mégapixels, incroyable, c'est ça qu'on faisait. Donc, GPT-3.5, je ne me rappelle plus combien de paramètres il y en avait, mais là, on arrivait à 32 milliards de paramètres. Sur le 4 Turbo. Puis, il y en a d'autres là qui sont en train de doubler ça. Donc, c'était la course un peu à « on veut tout faire ». Et là, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont commencé à utiliser ces outils-là. Puis là, ils disent « ah, il n'est pas bon, il hallucine ». Il fait « tu sais, on a demandé à un outil qui a une connaissance assez globale de répondre à des questions très précises. L'entraîner, ça coûte super cher parce que toute cette connaissance-là, il va falloir de la puissance de calcul. Et là, ce qui arrive, c'est que ils ont compris en fait que la course au nombre de paramètres, ça ne sert à rien. Et que là, on revient à quelque chose de plus expert, de plus spécialisé. Mmh. C'est là où on arrive au concept d'agent où est-ce que ton IA, tu vas l'entraîner ou le moteur de ton IA, tu vas l'entraîner pour une spécialité quelconque. Alors moi, je suis dans le domaine juridique, bah, j'ai besoin de quelque chose qui va traiter les questions juridiques et même être encore plus précis. Juridique aux États-Unis ou juridique dans l'État de New York.
Dans le domaine médical, par exemple, ouais. Aussi.
Et comment tu le feeds ton IA? Est-ce que tu lui envoies des liens URL et il va consulter les pages internet ou...
Oui, tu lui donnes en fait une source de données. Donc aujourd'hui, par exemple, on en a parlé en dehors du podcast, quand c'est de la finance, tu peux aller chercher des sites qui ont justement ces bases de données-là, YouFinance qui existe pour ça, ou tu peux aller utiliser ce qu'on appelle des web scrappers, des outils où est-ce que, qui existent aujourd'hui, browserless, où est-ce que tu t'abonnes à un service, puis lui, il va aller scraper le web pour toi, il va aller chercher des données, il va, par exemple, il va aller sur les forums de Reddit, il va sélectionner les top sujets qui ont les meilleurs commentaires sur un sujet quelconque, sortir des données-là, comparer avec ces affaires-là, est-ce que ça fait du sens, ça fait pas de sens, puis apprendre de ces choses-là.
Mais j'imagine le potentiel du truc, là, tu me donnes des idées de fou. Là.
Donc, on était sur quelque chose qui était comme ça, vraiment une ligne une très, très linéaire, où est-ce qu'on veut avoir plus de paramètres. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ce n'était pas assez précis pour ce qu'on voulait. Et là, je vais revenir à quelque chose qui a fait vraiment les infos, le tour des infos en France. C'était le philosophe Raphaël Enthoven qui a confronté une IA en fait, dans un examen de philo. Ils ont pris, l'examen de bac de l'année dernière. Et on dit, on va le faire tous les deux, on va voir combien ça va donner. Donc lui, bien évidemment, il a eu un 20 sur 20, Enthoven. Et puis l'IA, ChatGPT.
Pourquoi il a eu un 20 sur 20? Qui a noté
déjà de base? C'est drôle parce que dans ses commentaires, il a dit déjà, on a été surnotés tous les deux parce que personne ne mérite un 20 sur 20.
Bien sûr.
Mais
il pense que ChatGPT a été surnoté aussi.
Ouais. Il dit que ChatGPT a eu 11 sur 20 parce que c'était une accumulation de données, d'informations. Puis il a essayé de construire son histoire, mais ça ne faisait pas de sens.
Attends, t'as dit, c'était un examen de quoi?
De français. Philo.
Mais déjà, la philo, genre, pour noter ça, qui est-ce que c'est une autre IA qui a noté ou est-ce que c'est des professeurs? C'est un humain.
Non, c'est un humain.
Mais c'est
déjà, il y a un parti pris.
Ouais. Tu redonnes à 10 autres personnes et les notes ne sont pas du tout les mêmes. Hein.
Non, mais ils ont bien évidemment fait ça en blind test. Puis, tu as deux copies. Puis, une copie qui vient d'un humain, une copie qui vient de ChatGPT. Et je comprends son point. Je comprends que les gens sont dans cette euphorie de vouloir se confronter à la machine et puis soit prouver ou justement dans les deux sens prouver que la machine ne va jamais battre l'homme ou prouver que la machine est tellement maintenant incroyable qu'à un moment elle va nous surpasser.
Mais c'est pas le truc que Kasparov qui s'était fait battre par un ordinateur à un moment donné, ça a pris longtemps, mais c'est arrivé un jour.
Mais ça, c'était la puissance de calcul, il n'y avait pas d'intelligence.
C'était pas l'IA, ok.
C'était...
Il n'imaginait pas des scénarios, des trucs.
Mais
c'est que des statistiques.
Mais c'est que des statistiques et de la probabilité pour arriver à un résultat final, tu vois. Mais tout ça pour dire, tu ne peux pas demander tout à ChatGPT. Il devient, avec tout ce qu'on lui a mis dans le crâne. Il hallucine aujourd'hui. Il est plus capable de faire quelque chose qui fait du sens. Il faut que tu sois vraiment très précis. Et puis, tu sais, les prompts, ce qu'on appelle les prompts, c'est des techniques, en fait. C'est
ça le challenge.
Il faut suivre des patterns. Il faut bien structurer la chose. Donc, aujourd'hui, on s'en va vers quelque chose qui est plus spécialisé. C'est-à-dire qu'on a des modèles qui sont beaucoup moins lourds, qui coûtent moins cher à entraîner, mais qu'on spécialise dans quelque chose.
Et penses-tu que, du coup, mes prompts, mettons vu que ChatGPT évolue, si je me mets à jour et tout ça, est-ce que mes prompts, il va falloir qu'ils soient de plus en plus précis ou est-ce que le même prompt, à un moment donné, peut donner des résultats différents?
Exactement. En fait, la technique du prompt, c'est la logique back-end, on va dire, là, qui est comme genre sous le capot. Cette logique-là, c'est la même, en fait. Ils sont construits pour... On lui donne déjà un rôle. Tu es quoi? Genre, tu es un financier assez expérimenté avec 20 ans d'expérience dans la finance. Tu as travaillé chez telle boîte. Après, tu lui donnes du contexte. Le contexte, c'est par rapport à la situation, ce que tu veux. Ça, c'est l'interface GPT. C'est ça, en fait, que tu vois. Mais si tu veux utiliser l'API, tu peux aller un peu plus loin. Tu peux parler, tu peux lui donner le rôle, tu peux lui donner le contexte, tu peux lui donner des outils. Tu peux lui dire, va chercher les outils, ces outils-là. Parce que toi, quand tu demandes à ChatGPT, tu ne lui dis pas « utilise telle librairie, utilise tel machin ». Donc, tu peux choisir aussi des librairies qui sont entraînées sur un truc spécialisé, tu vois. Donc, mais aujourd'hui, tout le monde s'est créé son propre GPT. Là, les Bloomberg GPT, je ne sais pas si tu as vu. Là. C'est un des gros là, qui apparemment va changer tout.
Et tu pourras t'abonner à leur GPT qui s'est traîné sur un set de données particulier. Ouais,
c'est un business aujourd'hui. Oh, il y a beaucoup de boîtes. Il y a une boîte française, Mistral AI.
Mistral gagnant.
Mistral AI qui valent aujourd'hui, je pense, 2 milliards. Ils sont incroyables. Leur but, c'est de justement surpasser le GPT 4 Turbo. Là. Et moi, j'ai testé leur LLM. Il est quand même cool. Il est vraiment bien. Puis, tu sais, je pense celui à 7 milliards de paramètres. Il fait 4 gigas de données. Tu vois. Tu peux le rouler sur ton ordinateur. Et tu t'en fais ce que tu veux.
Et là, donc, je vois le truc qui s'améliore de plus en plus. Est-ce qu'on va juste faire qu'est-ce qu'on fait déjà de mieux en mieux? Ou est-ce que tu penses qu'il y a un truc qui va sortir qu'on ne se rend même pas compte que l'IA ouvre cette porte-là maintenant?
Non, je pense que là, on est dans la spécialisation et la parallélisation du travail. Donc, au lieu d'avoir un seul moteur qui va lui traiter tout ça, bah maintenant, on travaille en équipe. Tu peux avoir une équipe de LLM, c'est les Large Language Models, qui sont spécialisés. Je te donne un exemple. Moi, je me suis amusé en fin de semaine à faire un truc. Je me suis dit, OK, ben, tu sais, j'avais un blog il y a quelques temps sur la tech, mais je ne l'entretiens plus et tout. Je me suis dit, comment je peux faire revivre ce truc-là sans que ça me coûte genre une minute de mon temps dans la semaine? Je suis parti de cette prémisse-là. OK, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Okay, j'ai besoin de quelqu'un qui va faire de la recherche. J'ai besoin d'un chercheur, d'information, un recherchiste, comme on dit aujourd'hui dans l'industrie de la télé ou peu importe. Là. Quelqu'un qui va aller chercher de l'information et qui est spécialiste là-dedans. Ça veut dire que lui, il est bon à dénicher les... Et là, tu l'entraînes sur une base de données où est-ce qu'il apprend comment faire les bonnes recherches, les bons mots-clés et tout ça. Sa tâche, c'est que ça. Ensuite, il va passer l'information à quelqu'un qui est plus analyste de l'information tech. Donc,
c'est... Un rédac-chef.
Avant le rédac-chef, tu as celui qui va faire l'analyse, qui va faire des conclusions, ça fait du sens, ça fait pas de sens, technique, pas technique, ça fait du sens, ça fait pas de sens, puis on arrive à... on va dire de la donnée qui est un peu plus structurée mais qui n'est pas encore prête à la lecture. Tu ne peux pas montrer ça à tes lecteurs. Et là, c'est là où tu as le rédacteur en chef ou peu importe le writer, celui qui va écrire dans un style. Et là, tu peux lui dire, tu vas t'amuser dans le style.
Prends un style littéraire, machin.
Et là, tu vois, tu as une petite équipe de trois LLM qui discutent entre eux, qui se passent l'information entre eux, qui travaillent ensemble pour te donner une tâche.
Chacun. Est-ce qu'ils font l'un après l'autre ou ils travaillent ensemble? Enfin, après,
je ne sais pas.
Dans le cas que j'ai mentionné, tu n'as pas le choix parce qu'il y en a un qui fait la recherche et arrive avec du contenu. Ouais. Mais dans d'autres situations ou dans d'autres cas de dans d'autres use cases, tu peux avoir de la paralysation qui est faite, tu vois.
Je sais pas si tu as fini sur ce point-là, parce que moi, il y a un truc là, qui est une question qui me semble assez évidente, du coup. Si je comprends bien, le nerf de la guerre, c'est vraiment donc, de traîner tes modèles. Et ça prend beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie. J'imagine que c'est très dispendieux. Il doit même y avoir une empreinte écologique qui est pas ouf. Est-ce qu'il n'y a pas un challenge à ce niveau-là, que ce que Google développe de son côté, est-ce que ça va être chaque boîte, OK, on veut garder notre avantage, on a plus de thunes, donc on peut mieux traîner notre modèle, il va être mieux que le tien? Ou est-ce que tu penses qu'on va évoluer vers quelque chose où on aurait des partages de ces données-là? Et après, ce serait plus dans comment on programme justement l'agent de dire, OK, tu vas traiter la donnée comme ça, mais regarde, on va accéder à cette donnée qui a déjà été minée. Je ne sais pas, c'est quoi le terme? J'ai des termes de crypto.
Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a deux écoles aujourd'hui. Tu vois, OpenAI, c'est fermé. OpenAI, ça s'appelle OpenAI.
It's closed AI.
Leur mission principale, enfin initiale, c'était de justement rendre ces outils-là démocratiques. Sauf qu'à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé. La mission s'est perdue en chemin. Et puis là, c'est devenu une boîte assez... je ne sais pas, je ne connais pas leurs finances. Je ne vais pas dire qu'ils sont assez rentables, mais leur forfait se vend quand même assez bien. Puis on entend parler d'eux. Donc, je pense qu'à un moment donné, ils s'y trouvent. Ils ne perdent pas d'argent aujourd'hui avec ce qu'ils font. C'est pas open source, malgré que ça s'appelle OpenAI. Donc, eux, ils ont développé quelque chose, puis leur API, tu peux acheter des crédits, acheter des tokens, puis l'utiliser, puis query l'API pour qu'il te donne des réponses, et tu peux l'utiliser dans tes solutions. Après, tu as d'autres boîtes. J'ai parlé de Mistral AI tout à l'heure, c'est open source.
Ah ouais.
Tu vois, il y a des bibliothèques, des librairies où est-ce que tu vas télécharger ce que tu veux, tu le mets localement, tu testes. Personnellement, je ne comprends pas le business model là-dedans, mais leur objectif, c'est d'aller open source. Après, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas faire une partie qui est freemium pour monsieur, madame, tout le monde, un peu comme GPT 3.5 versus GPT 4, où est-ce que tu dois payer un forfait. Je ne sais pas. Le business model, je ne sais pas, mais oui, il y a les deux. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est que, je ne sais pas si vous avez entendu aussi parler de compagnies, de boîtes, surtout dans la tech, qui ont demandé à leurs employés de ne pas utiliser ces outils-là parce que les gens sont allés comme ça, genre je prends un copy-paste de mon texte, tu as le nom de la boîte, tu as des chiffres de la boîte, tu as des produits de la boîte. Oh, ils mettaient ça dans le prompt, puis tu as GPT qui te répond. Mais bien évidemment, il va te répondre correctement parce qu'il y a quand même un peu plus de connaissances. Sauf qu'il se nourrit de ça.
Oh non.
Donc imagine, ils viennent d'apprendre que la boîte Julien Inc., elle fait je sais pas combien de millions de dollars grâce à tel produit. C'est dans sa base de données maintenant. Alors qu'à la base, c'était dans le SharePoint de la compagnie privée. Il n'y a personne qui était au courant de ça. Donc, il y a beaucoup de boîtes qui ont pris un peu peur. Ils ont dit, on arrête ça. Mais je peux comprendre. Mais encore une fois, c'est l'humain. C'est du bon sens aussi. Les gens ont décidé de... Tu sais, on utilise tout ChatGPT, on ne va pas se mentir. Mais on essaie d'anonymiser un peu ou on refait les phrases de façon à ce que je suis une boîte de tech, j'ai un produit clair. C'était pas obligé de donner le nom du produit avec des chiffres exacts, tu vois.
Mais est-ce que si tous les jours, tu envoies des informations complètement fausses à ChatGPT, au bout d'un moment, il va ressortir à d'autres gens des informations complètement fausses?
Mais c'est pas faux, c'est juste...
Non, mais est-ce que volontairement, si là je veux fucker le système, tous les jours, je lui envoie une masse d'informations, mais complètement fausses? Et au bout d'un moment, il va intégrer ces réponses-là comme étant vraies ou ces messages-là comme étant vrais et il va les recracher à d'autres gens.
Je pense que tu poses une bonne question. Je ne pense pas qu'il est entraîné sur les prompts. Il est entraîné sur un set de données quelconque. Il est connu. Genre, l'information qui est dans cet iPad-là, je vais la prendre de A à Z. Mais quand je vais te poser une question, je ne pense pas qu'il l'a.
Il ne peut pas diverger. Je ne peux pas lui dire, par exemple, lui donner une opinion politique en lui répétant des affirmations.
Alors, moi, je te dis ce que je pense. Qui est fait? Est-ce que eux disent? Après, est-ce que les prompts sont toujours dans ton historique?
Ouais.
Est-ce que ces prompts, voilà, il y a pas une automatisation qui va lire? Je veux pas rentrer dans un truc un peu
c'est
plus.
C'est possible, ouais.
Mais je veux dire, il y a de l'information confidentielle importante qui devrait pas aller sur un système externe. Tu viens de décider de le mettre sur un système externe. Donc, ce qui va arriver dans les prochains mois, quand je parlais de spécialisation et de avoir une expertise. C'est que probablement ces boîtes-là vont. Il va y avoir des boîtes, des agences qui vont te créer ton propre GPT pour ta boîte, pour tes besoins, pour ce que tu as besoin de faire. Avec tes données internes, il ne va pas être exposé à Internet, il est local, il connaît la boîte avec les chiffres, personne n'est au courant de ça. Ça, c'est sûr que ça va arriver. Ça va arriver. Moi, je me suis amusé.
Quel horizon de temps ?
Moi, je me suis amusé à faire. Moi, je pense que ça va arriver très rapidement.
Deux, trois ans, là ?
Parce que. Non, je pense.
Avant.
On parle de moi, dans cette industrie-là, en ce moment-là, on parle de quelques mois. Tu vois, OpenAI ont lancé ce qu'ils appellent les GPTs, qui est comme genre des petits GPT, mais genre spécialisés. Mais moi, je pense que les agences web qui commencent à se genre, sentir un peu la soupe un peu chaude, hein, je pense que là, ils peuvent se reconvertir. OK, mais on va travailler avec les boîtes, mais cette fois-ci, on va leur donner justement leur propre LLM local, ajusté à ce qu'ils veulent faire et tout. Donc ça, je pense que ça va arriver très, très vite.
Il y a un business là, on parlait de, on cherchait des idées là, il vient de pitcher un truc là.
Moi, je me suis amusé à faire un truc ce week-end parce que je voulais tester le concept d'avoir un GPT offline qui roule juste sur mon ordinateur, d'ailleurs, sur mon Mac.
Et vous ne le verrez pas, mais nous, oui.
Ouais. Moi, on a déjà parlé de serveur. Moi, je sais, on stocke nos données sur nos serveurs. Le serveur est vraiment local, il n'est pas exposé à Internet. Enfin, il expose Internet selon... C'est protégé, HTTPS et tout ça. Je me suis amusé à lui donner accès localement, vu que c'est mon Mac qui était sur mon réseau, localement à mon serveur. J'ai choisi un type de fichier juste pour tester, parce que ça aurait été énorme de tout ce qui est .docx, tout ce qui est .pdf, tout ce qui est .excel et tout. Et je l'ai laissé s'entraîner là-dessus quelques temps. Genre, prends connaissance, il a construit ses index et tout. Et après, j'étais capable de faire ma propre recherche dans mes choses à moi. Mais là, on ne parle pas d'une recherche, il va faire comparer fichier, nom de fichier, puis je vais te donner une réponse. Non, non. Il est capable de lire ce qui est dans le document. Il est capable de savoir si, par exemple, il y a une note qui a été faite à l'intérieur du document. Il est capable d'aller faire une recherche et me dire « Ah, j'ai trouvé ce document-là et en fait, cette phrase-là qui date de tel a été faite. » Il est capable de lire le versioning sur un fichier Word. C'est-à-dire, tu sais, quand tu fais un fichier Word, à chaque fois que tu sauvegardes, il y a une version qui est créée.
Plus récente, moins récente déjà.
Ouais, donc tu vas dans l'historique, tu vois toutes les versions avec toutes tes modifications.
Il est capable de voir.
Il est capable d'aller voir toutes les modifications qui ont été faites dans le document puis me dire « Ah bah, tu vois, c'est sur une vieille version du document. J'ai trouvé telle phrase. » Et moi, je me suis amusé à... J'ai pris un document Word, j'ai mis un texte, j'ai pris du lorem ipsum, là, genre rien de... Et j'ai changé une version, deux versions, trois versions, quatre versions, et j'ai fait une recherche par rapport à quelque chose qui était dans la toute première version, qui n'était plus sur la quatrième version. Il était capable de me dire « Ah, j'ai trouvé nulle part ce que tu me demandes. Par contre, j'ai vu que c'était sur une vieille version de ton document Word. » Donc, tu vois, c'est juste la recherche, un truc simple. Imagine, je suis une compagnie, j'ai mes employés qui font genre les vendeurs, enfin les product managers, peu importe. T'as de la documentation qui est interne, qui n'est pas exposée à Internet. Et là, tu dis, vas-y, va apprendre là-dessus. Et après, être capable de faire une interaction comme on a avec ChatGPT et pas une recherche dans un champ de recherche parce que tu lui dis, trouve-moi julien.px.com, un truc comme ça. Je pense qu'il va avoir des usages. Je pense qu'il y a de la job... Cadeau, je pense que les agences web, je pense qu'elles vont se spécialiser là-dedans. Mais le concept de paralysation et de d'expertise et de cette équipe de LLM qui travaille, c'est quelque chose qui date de pas très longtemps, c'est très récent, et je pense que ça va faire super mal. Mais ça va faire du bien aussi dans le sens où j'aimerais bien voir Raphaël Enthoven dans 2-3 mois se confronter à un GPT ou un peu importe, un LLM qui a été entraîné sur de la philo toute sa vie. Parce qu'il se confrontait à un ChatGPT qui connaît juste
générique.
Ouais, très générique. Là, je lui dis, regarde, encore pire si tu choisis le sujet, puis tu lui dis, regarde, compte. Deviens le spécialiste de compte.
Moi, je suis pressé d'avoir un challenge entre le fameux Raphaël et Abdel, carrément. Parce que je pense qu'Abdel, il est encore plus fort.
Non, mais moi j'ai aucune compétence en philo, mais
il y a trois agents qui bossent pour lui.
C'est ça, mais oui.
En fait, il fait en ce moment, j'adorerais lui parler, si des gens qui nous écoutent, qui le connaissent, j'adorerais lui parler. Il fait une tournée pour la publicité de son livre qui s'appelle L'Esprit Artificiel. Je n'ai pas lu le livre, j'adore ce qu'il dit, je suis d'accord à 100% avec ce qu'il dit, mais je pense qu'il n'a pas encore une visibilité sur ce qui va arriver. Ouais. Et dans son discours, il dit « ça va jamais être, ça va jamais être, ça va jamais être ». Sur certains points, je suis d'accord avec lui, ça va jamais être certaines qualités, mais certains points, je pense qu'il serait très surpris si on entraînait un LLM juste sur la philo et on le dit « vas-y, tu passes ton examen avec… »
On avait discuté de faire des interviews cette année.
Tout à fait.
Je ne sais pas si c'est un bon moment pour en parler.
Bien sûr, de toute façon, j'espère qu'on va commencer à le faire très bientôt.
Si ce n'est pas déjà fait dans les diffusions déjà passées.
Donc l'idée, c'était chacun d'entre nous, donc Thomas, Flo, Abdel et moi-même, on va rencontrer des gens qui sont plus ou moins dans notre thématique pour avoir des interviews un peu plus pointues. Alors moi, j'ai envie de te lancer le défi de l'avoir sur le podcast.
Raphaël Enthoven,
il n'était pas si inaccessible que ça. Tu lui envoies un snap.
On va essayer. Moi, je voulais nous ramener, on était... pour partager un peu les coulisses avec nous, nos auditeurs. On était au CES, puis on a rencontré des gens de BFM qui allaient recevoir Julia, Luc Julia en fait.
Qui est, vas-y, rappelle qui est Luc Julia, parce que tout le monde ne connaît pas.
Oh, Luc Julia, c'est un monument dans la tech, dans la Silicon Valley. Là. C'est un des fondateurs de Siri, ou du moins ceux qui ont construit l'infrastructure pour Siri. Il était VP Engineering chez SmartThings, chez Samsung. Aujourd'hui, je pense...
Chez Renault.
Chez Renault, oui. Qu'est-ce
que tu fous chez Renault?
On lui demandera.
On va l'avoir.
Non, mais justement, c'est ce que j'allais dire. On avait l'occasion, en fait, le vendredi, le dernier jour du CES, quelqu'un qui nous a proposé quand on pouvait le rencontrer. Malheureusement, en termes de timing, ça n'a pas fonctionné. Mais moi, c'est quelqu'un que j'aimerais. Moi, je l'ai vu une fois à San Francisco, mais je n'ai pas eu la chance de lui parler. Et j'adorerais lui parler.
Une heure. Ouais. Une heure avec lui.
Parce que, et en fait, il a un livre assez incroyable. Le titre est très, très parlant.
Quand
même.
Je suis sûr qu'il nous l'a piqué sur notre titre. Ouais.
Non, je pense que le crédit lui revient. Il l'avait sorti bien avant que...
Oui.
Ouais, genre l'intelligence artificielle n'existe pas. Point d'interrogation. Et le livre est assez incroyable. Je partage beaucoup de ses idées. J'adorerais avoir ce mec. Mais Raphaël Entoven, c'est une bonne idée. Par contre, tu sais, quand on dit souvent... on est à deux niveaux de... Comment on appelle ça?
On a deux contacts, on a deux personnes de telle ou telle.
Je ne sais pas si c'est vrai dans ce cas-là. Bah, je sais que...
En vrai, on est à deux personnes de Luc Julia, en vrai. On est même à une personne de Luc Julia.
Luc Julia, c'est bon, mais...
Et lui, de le connaître.
Raphaël Entoven, je ne sais pas. Mais regarde, je vais le relancer sur...
Si des gens qui nous écoutent encore en ce moment dans ce podcast connaissent de près ou de loin les personnes qu'on a mentionnées ou d'autres personnes... pertinente dans ce milieu-là, on est ouvert à la discussion. Ouais. N'hésitez pas à nous l'écrire, nous mettre en contact et ça pourra faire des interviews très, très intéressantes. Abdel, comme vous l'avez vu, sera très intéressé pour
J'ai hâte d'entendre tes questions, occuper. En tout cas, parce que pour moi, tu es un expert, fait que je serais curieux de voir quelles questions tu lui poserais.
Expert, c'est vraiment très difficile aujourd'hui de dire que je suis un expert. Les choses avancent tellement vite et il faut choisir en fait sa niche. Tu ne peux pas être partout, tu ne peux pas... Je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis quelques mois, il y a un métier là, qui a pris, genre tout le monde maintenant met sur son titre, data analyst.
Ah ouais.
Tout le monde est devenu data analyst depuis 6 mois. Et si tu vas sur YouTube et tu cherches comment devenir data analyst, tu vas voir que des vidéos là-dessus.
Utilise ChatGPT. Voilà,
devenir data analyst en 3 mois, devenir data analyst en 6 mois, si je pouvais revenir en arrière, qu'est-ce que j'aurais fait différemment pour devenir un data analyst? Tout le monde est devenu un data analyst. Moi, j'en connais pas beaucoup des vrais data analysts, en fait. Je vais pas écorcher son nom, mais la personne qui avait fait la petite vidéo avec Macron, avec la chanson d'Aznavour.
C'est Defend Intelligence.
Ouais, Defend Intelligence.
Le pseudo, en tout cas.
Ouais, Yanis Ayamari, si je dis pas de bêtises. J'espère que j'écorche pas son nom. Lui, c'est un data analyst. Tu vois, le mec, il est dans les entrailles de la chose, il comprend les concepts. Tu sais, quand on parlait de prompt, tout le monde parle aujourd'hui de prompt.
Ouais.
Je sais pas, vous avez tous vu les annonces, les prompt engineers aux États-Unis, ça gagne des 1,5 million de dollars, machin et tout ça. Mais personne n'a parlé ce que c'est. Genre, c'est quoi les techniques? Et quand tu ouvres ton GPT, tu commences à regarder à l'intérieur comment il fonctionne, c'est quoi les paramètres qu'il a besoin d'avoir pour répondre. Tu comprends la technique du prompt, tu sais, ça prend pas longtemps.
Moi, je pensais au film, tu sais, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Tu le connais, ça?
Ouais.
Je pense toujours à l'homme qui murmure à l'oreille des IA, tu vois. Genre celui qui sera capable de parler aux IA, de prompter vraiment qu'est-ce qu'on veut pour que lui, derrière, il nous donne l'info. C'est un truc de ouf, ça.
Je pense qu'après avoir passé un petit week-end à regarder l'intérieur, je suis pas pire.
Abdel est chaud. Ouais. Abdel est très, très chaud.
Et voilà le titre de la vidéo. L'homme qui parlait.
Hakim qui parlait aussi.
Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est difficile de dire que tu vas toujours avoir un prompt parfait pour une IA qui est, j'allais dire un mot très, très dangereux, j'allais dire une IA généraliste. Parce qu'une IA généraliste, c'est justement, chaud, c'est là où on veut aller. Mais ce que je voulais dire, c'est une IA qui trouve-moi un autre mot que généraliste pour dire quelque chose à l'inverse d'un spécialiste. Qu'est-ce qu'on dit, genre quelqu'un qui couvre un peu plus de domaines, on va dire. Parce que l'IA généraliste, c'est un concept très précis qui veut dire, enfin, toutes les IA aujourd'hui...
Pluridisciplinaire.
Ouais, genre, ouais, exact. Ouais.
Et voilà.
Donc j'ai hâte de voir. Je pense que les prochains mois, encore une fois, vous avez vu à quelle vitesse les choses ont changé depuis quelques temps. Les images, les machins. Maintenant, tu as des suites logicielles où est-ce que tu mets une photo et tu sélectionnes, tu fais un contour sur un endroit de la photo, puis le truc va commencer à bouger avec les mouvements et tout. Je te dis, c'est incroyable. C'est incroyable.
Je pense qu'on va pouvoir se refaire des épisodes assez régulièrement pour faire des upgrades, enfin des updates sur le sur l'IA entre guillemets, encore une fois.
Non, parce que là, ça va dépasser. Si je pars sur Neuralink, on est mort.
Ouais, mais j'allais dire, on est le 30. On est le 30 janvier.
Alors, au moment où on enregistre, on est le 30. Je ne sais pas quand ça va sortir, mais...
On enregistre le 30 janvier, et puis il y a deux jours.
2024.
Il y a le fameux tweet de Elon Musk qui dit que la première...
Le premier implant de Neuralink sur un humain a eu lieu, et ça fonctionne pour l'instant. Donc, il l'avait déjà fait sur des animaux. Notamment, le premier qui a été connu, c'était sur un singe qui a pu jouer à Pong. Juste avec la pensée. Au début, il a un joystick. Et en fait, au début, son coma, il n'y a rien de ouf. Et en fait, il te montre que le joystick est débranché. Et après, il l'enlève carrément et il continue de jouer. Et il a un espèce de truc avec du sucre là, pour rester devant l'écran. Et ils l'ont fait sur un humain. C'est fou, quoi. Et bref, mais là, on ne part pas sur l'épisode.
Mais si ça se trouve, le jour où l'épisode sort, la personne...
Alors, tel qu'il nous l'amène, ça va être pour réparer une motricité. Donc, c'est une personne qui est quadraplégique.
C'est la mission première et initiale de la compagnie. Donc.
Après, redonner la vue aussi, je crois, c'est de
ce serait tellement incroyable.
Oui, mais après, l'IA, tu vois, plus dans le cerveau IA, dans ma tête, je suis obligé de faire l'association et de me dire, mais si je pouvais avoir maintenant un truc de langage que tu parlais dans ma tête et je peux parler toutes les langues directes,
ouais. J'ai pas une réflexion assez mature sur le sujet, mais je pense que en fait c'est là où on veut aller. On veut aller vers cette intelligence là parce que la mission de Neuralink c'était de donner des facultés à des gens qui ont perdu la possibilité de parler, et donc c'est ça stimule avec des signaux électriques et tout. Si on commence à inclure de l'IA là-dedans, en tout cas, encore une fois, mon avis n'est pas très mature là-dessus. Je ne pense pas que ça fait du sens. Parce que l'intelligence que tu cherches, tu vas la mettre dans l'objet où il y a justement... l'objet. L'humain où il y a justement une intelligence, je trouve que ça ne fait pas sens. Mais on verra. Je serais peut-être surpris de ce qui va arriver. Mais on connaît l'objectif de Elon Musk. La mission de la boîte aujourd'hui, c'est de redonner les facultés perdues. Mm-hmm. Mais vous savez tous où est-ce qu'il veut aller. Ce mec-là, il pense qu'on est dans...
Sur Mars.
Il pense qu'on est sur une simulation. Donc, c'est sûr que lui, il va vers ce sens-là. Donc, il veut qu'on devienne des super-humains avec des facultés assez incroyables. Et pour lui, l'IA va surpasser l'humain. Il faut qu'on s'équipe, justement.
Ouais, c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez vu, d'ailleurs, il poste quelques tweets où c'est des vidéos un peu catastrophes, enfin, censées de catastrophes, et il dit, c'est des simulations, hein. Il dit, qu'est-ce que vous feriez dans cette situation ? Pour voir comment l'humain réagirait, quelles propositions il ferait. Et je pense que l'objectif, c'est d'apporter une solution à ces situations, en fait.
Il veut nous préparer, en fait. Ouais. Il veut nous préparer à une catastrophe, genre... galactique, donc je sais pas, mais oui, Neuralink c'est incroyable quand même.
Je trouve
le truc est incroyable. Ils ont eu quand même l'approbation du FDA de faire les tests et tout. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère, moi je pense que ça va être un truc incroyable pour justement équiper les personnes qui ont perdu certaines facultés, que ce soit psychologie, enfin je veux dire niveau cérébral ou niveau physique, parce que imagine avoir après des prothèses qui sont capables de justement interpréter
signal. T'as un exosquelette et tu peux bouger
théoriquement. L'exosquelette c'est censé déjà exister, en fait, mais c'est lui,
on a testé un, non?
C'est vrai,
oui, c'était pas vraiment un exosquelette. Non,
mais tu pilotes pas avec ton cerveau, c'était moi.
Non, c'était juste une assistance, en fait, au mouvement, en fait. Ça te donnait un peu plus d'élan et de force dans tes mouvements.
Mais juste les exosquelettes pour aider les gens à marcher, etc., c'est juste que ça coûte tellement cher encore. Je veux dire, c'est très peu accessible pour les gens. Mais oui, à terme, avec une puce dans le cerveau, ça peut aider, c'est sûr. Mais après, il y a plein de questions éthiques, il y a plein de questions morales, etc.
Je
ne
sais pas si on connaîtra ça.
On n'est pas encore... Je pense que même moi, psychologiquement, je ne suis pas encore assez prêt à voir ce genre de truc, mais à voir ce que ça donne dans le
futur. Nous, je ne pense pas, mais un gamin qui naît maintenant, peut-être. Quand il a 20 ans, il est chaud, je pense.
Ouais. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est le lien entre la technique, la technologie et la biologie. Et ça, je vous en ai parlé parce qu'on a vu un produit au CES. Moi, j'étais bluffé qu'on puisse communiquer de l'information à de l'être biologique. Tu vois.
Les plantes, là, c'est ça ?
Ouais. Et là, tu vois, c'est à peu près la même chose. Donc là, t'as comme un bridge ou un hub dans ta tête qui permet de faire le lien entre tout ce qui est neuronal, en fait, neuronal biologique, avec tout ce qui est neuronal technique. Tu sais, les réseaux de neurotechniques avec les réseaux... Je ne sais pas ce qui va sortir de ce truc, Mais je ne serais pas surpris de voir des trucs dans l'année. Tu sais, moi, je ne prendrais plus de paris en disant « ça va prendre des années avant que la chose arrive. » Moi, je serais très surpris si...
Si ça se trouve, dans 6 mois, ce sera déjà là, tu vois.
Ouais. Mais là, il commence par une personne. On verra ce que ça va donner. Ouais.
Eh ben.
Bon. Super intéressant en tout cas.
Merci Abdel, j'ai appris plein de choses aujourd'hui.
On espère que ça vous a intéressé cet épisode. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. C'est vrai que ça rentre assez en profondeur dans le sujet de l'intelligence artificielle, les IA génératives, comme dit Abdel, etc. Si vous avez vous-même des expériences dans ce milieu-là, n'hésitez pas à nous le dire. Et si vous avez apprécié, partagez cet épisode, likez, abonnez-vous surtout pour ne pas rater les prochains épisodes. Et puis la prochaine fois, on espère que Thomas sera de retour de sa maladie. Et on vous dit à très vite dans votre poche.
À bientôt.
Salut tout le monde.